Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur le 87.7 FM Radio Campus Amiens et vous écoutez votre quotidienne d'actualité locale et associative, Info Club Sandwich. Aujourd'hui, Rémi reçoit Amina qui vient nous présenter les maraudes citoyennes amiennoises.
Amina, bonjour.
Bonjour.
Tu es venue nous parler un petit peu de la maraude amiennoise et de l'actualité qui vous concerne en ce moment. Est-ce que tu pourrais me présenter un petit peu la maraude amiennoise dans un premier temps ?
Alors, les maraudes citoyennes amiennoises, c'est une association depuis 2021 où toutes les semaines, sans exception toute l'année, on sert un repas complet et chaud, de la soupe au dessert, des produits d'hygiène et des vêtements aux personnes à la rue et en très grande précarité.
Est-ce qu'il y a d'autres actions que vous mettez en place au sein de l'association au-delà de la maraude ?
Alors, on essaye depuis un an et demi de mettre en place des concerts de temps en temps dans l'année pour apporter un petit peu de culture, d'avoir des partenariats un peu à droite à gauche pour justement leur apporter ce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude d'avoir.
Pour quelqu'un qui n'aurait jamais participé à une maraude ou qui n'aurait jamais vu comment ça fonctionne, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu le principe ?
Alors concrètement, ça commence chez nous, souvent la veille ou le jour même où on doit préparer le repas. Donc où c'est une personne, où on se divise la tâche sur 2-3 personnes. Donc il y a tout le repas à préparer pour à peu près une cinquantaine de personnes. Et après, le jour J, on se retrouve en centre-ville d'Amiens où on pose nos tables et nos chariots place Gambetta. On distribue et pendant qu'on fait ça, si on a assez de bénévoles, il y a 2-3 autres personnes qui vont sillonner les rues à pied pour distribuer des repas aux personnes qui ne nous connaissent pas encore ou qui n'osent pas venir nous voir.
Tu fais partie de ces personnes qui sont sur le terrain, qui sont au contact aussi des gens dans la rue en difficulté. Quelle est ton analyse de la situation actuellement à Amiens ? Voilà, quelle en est ta perception, on va dire ?
Ma perception, c'est une très bonne question. J'ai l'impression que la situation est un peu la même qu'en 2021 quand j'ai commencé. On voit toujours autant de personnes à la rue, elles rencontrent toujours les mêmes problématiques. On a l'impression qu'elles ne sont pas forcément écoutées ou mieux mises en valeur, entre guillemets, dans leurs besoins et dans leurs nécessités. Donc le constat est le même que quand j'ai commencé.
Justement, tu me parles de besoins, de nécessités, de ce que toi tu vois et de ce que ton association voit et vit au quotidien. Quels sont ces besoins, quelles sont ces nécessités pour ces personnes en grande difficulté et qui, pour la plupart du temps, sont dans la rue toute l'année ?
Alors, elles ont besoin d'un endroit où poser leurs affaires en toute sécurité, donc vraiment où une sorte de consigne avec quelqu'un qui va garder les affaires pour elles ou bien des casiers vraiment sécurisés parce qu'il y a énormément de vols dans la rue et c'est pas rare qu'on donne 3 fois un duvet dans le mois parce qu'elles se sont fait voler entre deux. Elles ont besoin d'un accès à l'eau potable gratuite parce qu'on distribue aussi énormément de bouteilles d'eau qu'elles ont et elles ont des difficultés à remplir ces bouteilles d'eau. On trouve ça quand même assez impensable de dire qu'en 2024, en France, une personne n'a pas accès à de l'eau potable gratuitement. Elles ont aussi besoin d'un accès à des toilettes gratuitement et tout le temps, pas juste en journée, et elles en ont aussi besoin la nuit. Et surtout, elles ont besoin d'être considérées. On a eu cette discussion encore avec elles, avec ces personnes mercredi dernier. Ce qui leur manque le plus, c'est le bonjour et c'est le sourire. Même si on ne peut pas donner une pièce, même si on ne peut pas donner un sandwich parce qu'on n'en a pas les moyens, elles en ont conscience que tout le monde n'a pas les moyens de les aider. Juste un sourire, un bonjour, c'est ce qui leur manque le plus.
Des choses finalement très simples et qu'on a parfois du mal à comprendre. Comme si parfois on crée un détachement entre nous et ces personnes alors que c'est des êtres humains comme les autres. Et justement, là récemment, il y a eu une forte actualité autour de la situation des sans-domicile fixe et de la mendicité à Amiens. Est-ce que tu accepterais un petit peu de nous expliquer ? Ça part notamment de la mairie d'Amiens, d'une annonce de la mairie d'Amiens qui souhaite mettre en place un arrêt anti-mendicité. Voilà, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça ? En quoi ça consiste exactement ? Quel était le positionnement de la mairie d'Amiens ?
Alors, l'arrêté anti-mendicité que la maire souhaite mettre en place, ce serait un arrêté anti-mendicité, donc ce serait surtout pour pallier à la violence dont feraient preuve certaines personnes à la rue, qui, je le rappelle, sont une toute petite minorité. et elles voudraient mettre plus de forces de l'ordre pour patrouiller en centre-ville et leur demander de se déplacer, de les verbaliser, ce qui, ma foi, reste fort compliqué. Et pour nous, ça ne règle en rien la situation parce que c'est continuer de nier ces personnes et continuer de nier leurs besoins. Et plutôt que de dire on rencontre, entre guillemets, je mets des très gros guillemets, un problème avec une potentielle violence en centre-ville. Donc plutôt que d'essayer de comprendre d'où vient cette violence et de quoi mettre en place pour y pallier ou pour trouver des solutions, c'est vraiment juste dire vous allez aller ailleurs. Et on ne voit pas en quoi c'est censé régler quelque chose ou quoi que ce soit. Et nous, ça nous choque profondément.
Est-ce que vous avez essayé de rentrer en contact avec la mairie d'Amiens? Est-ce que vous avez discuté avec eux? Quelles ont été les réponses?
Alors, nous avons fait une lettre ouverte qui, il me semble, a aussi été déposée à la mairie. Nous n'avons eu aucun contact avec Madame le maire. On a eu des retours très vague et absolument pas direct avec la mairie. Comme quoi, il n'y aurait toujours pas de texte et de proposition de texte quant à cet arrêté. Donc c'est pour ça que, par exemple, la Ligue des droits de l'homme ne peut pour l'instant rien enclencher en termes de recours parce que...
On est sur un effet d'annonce.
Voilà, c'est ça. On est purement sur un effet d'annonce. Il n'y a aucun texte, il n'y a eu aucune proposition de texte. Et ça nous semble compliqué de toujours pas avoir ce texte alors que Madame le maire souhaiterait le mettre en place à partir de début mai.
Ce qui est intéressant avec ce dont tu me parles, c'est que vous avez vos actions concrètes au quotidien, mais vous êtes là aussi pour veiller un petit peu, faire de la veille, on va dire, légale aussi sur ce qui peut être mis en place par nos institutions. Et on comprend que de ton point de vue, cet arrêté, il est problématique, il est presque, on pourrait dire, inutile. C'est pas sûr qu'il règle le souci. Toi, quelle serait, d'après ton association, quelles seraient les mesures concrètes qu'on pourrait mettre en place pour aider ces personnes plus directement, quoi, de manière plus efficace?
Alors, les mesures concrètes que nous, on aimerait vraiment qu'ils soient mises en place, c'est un peu ce que je te disais au début, on aimerait que les toilettes soient ouvertes H24, toute la nuit, parce que les personnes, elles se retrouvent bien obligées d'aller faire leurs besoins quelque part s'il n'y a pas de toilettes ouvertes. On aimerait un point d'accès à l'eau potable gratuit et pareil, ouvert tout le temps, parce que ça nous semble une nécessité absolue. Et après, pour avoir parlé avec les personnes qui sont à la rue, ce qu'elles nous ont fait remonter, c'est aussi ce besoin de mettre en sécurité leurs affaires, leur besoin d'arrêter d'être invisibilisés à ce point toute la journée, au quotidien, et de subir le mépris à répétition. Une personne à la rue m'a d'ailleurs fait la réflexion que la violence, ils ne la cherchaient pas. C'était eux qui la subissaient en grande partie au quotidien à travers le mépris de tout le monde, en fait. Le mépris des regards, le mépris de l'indifférence, c'est quand même une très grande violence. En action concrète, je pense qu'il faudrait peut-être aller leur parler, leur demander directement ce qu'eux, ils auraient besoin. Ils nous faisaient remonter, par exemple, qu'il n'y avait qu'un seul endroit où prendre un petit déjeuner sur Amiens. Et évidemment, ça peut être compliqué si tout le monde va prendre son petit déjeuner au même endroit. Donc peut-être faire en sorte d'en avoir un deuxième, faire en sorte de les écouter. Je pense que ça, ce serait la mesure la plus importante, c'est écoutons-les un petit peu.
Donc merci pour ces retours. C'est aussi une réaction à cette position de la maire d'Amiens et des mobilisations. Donc vous vous êtes réunis, il me semble, une ou deux fois devant le parvis de l'hôtel de ville. Concrètement, c'est quoi la suite des actions pour vous? Comment vous allez essayer de continuer à vous faire entendre avant pour que cet arrêté ne soit pas du tout mis en place? Parce que pour remettre les choses en contexte, c'est un essai. Je crois qu'ils vont essayer de mai à juillet ou août cet arrêté et voir si ça fonctionne. Mais toi, j'imagine que pour vous, l'idée c'est que ça se mette pas du tout en place. Et comment vous allez faire pour lutter contre cette décision?
Alors, il faut encore qu'on en parle entre bénévoles parce que je ne suis pas seule dans l'équipe et je sais qu'il y a d'autres associations, d'autres institutions qui sont avec nous contre cet arrêté. Mais je pense que s'il faut qu'on fasse une manifestation, on fera une manifestation. S'il faut qu'on se réunisse tous les mercredis, on le fera. Et je n'ai aucune idée de qu'est-ce qu'on peut encore mettre en place pour le moment. Mais comme je l'ai dit, je ne suis pas toute seule dans l'équipe et je suis sûre qu'il y aura quelqu'un qui aura une bonne idée pour réussir à se faire entendre. Et le plus important, à faire entendre les personnes qui sont à la rue.
Et je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression quand même que votre prise de position a généré aussi une vague de soutien au-delà d'un clivage politique bêtement gauche-droite finalement.
Ah oui, complètement. Ça nous a beaucoup émus à quel point notre lettre ouverte a été relayée, de voir autant de personnes sur le parvis de l'Hôtel des Villes la semaine dernière. On est vraiment émus de tout ce soutien. On a aussi eu des retours de quelques commerçants, que je ne citerai pas évidemment, qui nous ont dit que même eux ne comprenaient pas cet arrêté. Donc on a des petits soutiens un petit peu partout, on a eu des messages, et on sent que c'est sincère et que c'est un soutien purement humain en fait.
C'est ça, c'est une question d'humain. Et justement, est-ce que tu aurais un parcours en tête d'une personne que tu aurais rencontrée dans la rue, qui t'a touché en restant anonyme bien entendu, mais que tu accepterais de nous raconter très rapidement, qu'on prenne aussi la réalité de ces personnes-là finalement. Un parcours de vie, un itinéraire que tu aurais en tête et qui toi t'a touché.
Alors évidemment, il y en a plusieurs qui me viennent en tête. Le plus marquant pour moi, et je pense qu'il sera peut-être aussi assez marquant pour toi, c'est un étudiant qui était venu et qui me racontait dormir sur un matelas dans une cage d'escalier dans la rue, je ne sais plus trop où, dans Amiens. Et il osait à peine venir, je crois qu'il nous avait contactés sur Messenger, est-ce que je peux venir manger un repas ? Vraiment tout intimidé, il osait à peine. Et évidemment, nous, on ne fait aucune différence. Tu as faim, tu n'as pas de quoi te nourrir, tu viens, tu auras un repas et on ne posera pas forcément de questions sur pourquoi tu en as besoin. Et je me souviens de cette image marquante de cet étudiant en train de réviser sur le banc et de moi devoir lui mettre une assiette entre les mains pour qu'il accepte de manger. Donc ça, c'est une histoire qui m'a profondément marquée parce que je pense qu'on avait peut-être 2 ans d'écart. Donc évidemment, ça touche beaucoup. Et dans tous les parcours que je vois, il y a forcément cette personne où je sais qu'elle sait parler plusieurs langues, qu'elle a plusieurs masters et qu'elle se retrouve à la rue pour... Alors je ne peux pas appeler ça un accident de parcours, mais parce que la vie arrive à un moment donné. Et il y en a beaucoup, en fait. Il y a beaucoup de personnes où des fois, un chemin de vie différent, quelque chose qui arrive et qui se retrouve à la rue et on se dit ça aurait pu être ma mère, ça pourrait être mon père, ça pourrait être mon grand-père, ça pourrait être mon fils. Et voilà.
Et oui, on comprend que les situations sont multiples, les expériences sont multiples et on comprend aussi l'intérêt de vous soutenir, d'apporter son soutien. Peut-être pour faire un petit peu de vulgarisation, on va dire, au-delà de la nourriture, de quels produits ont besoin les personnes dans la rue ?
Alors, les personnes qui sont à la rue, elles nous réclament très souvent des lingettes. Vous savez, type lingette pour bébé, parce que c'est facile pour se faire une petite toilette de chat tous les jours ou pour servir de papier toilette. Ça, on nous en réclame beaucoup. Les sous-vêtements hommes, donc des caleçons, typiquement, nous en demandent beaucoup. Des chaussettes grande taille, on nous en demande beaucoup. Tout ça, c'est des produits hors nourriture qu'on nous réclame et qu'on nous demande, et des fois on est un peu ric-rac en stock, donc on distribue petit à petit.
Merci pour ces précisions, parce qu'il me semble que vous collectez aussi, vous vous occupez de récupérer des produits alimentaires ou non, des produits d'hygiène, hein, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est ça. Alors on a la chance d'avoir des logements où on peut stocker un garage, une cave où on sait qu'on peut stocker un petit peu. Donc notre association vit à 90% uniquement de dons et de récup ou de collecte alimentaire. D'ailleurs, merci à toutes les personnes qui arrivent à nous donner ne serait-ce que 3 paires de chaussettes et un paquet de café. Parce que c'est uniquement grâce à ça qu'on est en capacité de fournir un repas toutes les semaines depuis 3 ans.
Je pense qu'on a bien, discuté de l'association, de vos actions, de la problématique liée à l'actualité à Amiens. Si on entend cette interview, qu'on veut rentrer en contact avec vous, est-ce que vous avez une permanence ? Comment on peut vous joindre ? Comment ça se passe concrètement ?
Alors, n'hésitez pas à nous faire un message ou sur la page Facebook des Maraudes Citoyennes Amiennoises ou sur l'Instagram du même nom. On est 3-4 bénévoles à être connectés sur les réseaux et à pouvoir répondre. Mais globalement, si vraiment vous avez envie de nous rencontrer, de venir voir comment ça se passe, et c'est un peu le message qu'on fera à toute personne qui nous en enverra un, venez à notre rencontre le mercredi à 19h, place Gambetta. C'est La meilleure façon de comprendre, c'est de se lancer dedans et de juste venir sans a priori, on laisse tout chez soi et on vient nous aider.
Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci en tout cas d'être passé, de nous avoir expliqué un petit peu pourquoi vous avez décidé de prendre position, de nous expliquer aussi un petit peu ce que vous mettez en place au quotidien et la réalité aussi des personnes qui sont dans la rue et en difficulté.
Merci à toi pour l'invitation.
Avec plaisir.
C'était l'interview d'Amina, venue présenter les maraudes citoyennes amiennoises. Je vous propose maintenant de continuer la série Au cœur du COP, réalisée par Hugo, étudiant du Master de Journalisme de l'UPJV, avec le quatrième et avant-dernier épisode.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce qui vient de se passer au stade du Heysel à Bruxelles est à la fois ahurissant, dramatique et révoltant.
Au cœur du COP, épisode 4, l'atmosphère des tribunes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième et avant-dernier épisode de Au cœur du COP. Aujourd'hui, nous nous plongerons dans l'atmosphère électrique des stades, là où la passion des supporters atteint son paroxysme. Pour saisir pleinement l'essence du supporterisme, nous devons d'abord ressentir l'atmosphère unique qui règne dans les tribunes lors d'un match. Des chants enflammés, des cris de joie ou de déception, cette symphonie humaine qui s'élève au rythme des exploits sur le terrain. Fermez les yeux. Écoutez et imaginez-vous au cœur de cette ferveur collective. Maintenant, partons à la rencontre de ceux qui vivent et respirent cette atmosphère à chaque instant. Bonjour Axel, bonjour Tristan. Quelle équipe vous supportez ?
Alors de toute ma vie, je n'ai supporté qu'une équipe et c'est le FC Barcelone.
Alors je suis supportrice de l'Amiens SC, l'équipe de football d'Amiens, et également du Paris Saint-Germain.
Et ça fait combien de temps que vous supportez ces équipes ?
Je supporte cette équipe depuis 2015, notamment avec un match qui m'a marqué en finale de Coupe d'Espagne contre l'Atlético Bilbao. C'est quand Messi a traversé tout le terrain en marquant un but stratosphérique et avec une victoire à la clé. Et à ce moment-là, j'avais 14 ans.
Alors, Amiens, ça va paraître un petit peu bête la question et un petit peu footix, mais je les supporte depuis à peu près leur montée en Ligue 1, donc la saison 2017-2018. Parce que c'était le club Picard et que c'était le club qui était pas loin de Beauvais, la ville où j'habitais à l'époque, donc c'était facile pour aller voir des matchs de foot. Et le PSG, c'est beaucoup plus vieux. Depuis que je suis bien petite, avant l'époque Qatari, pour dire. Là, c'est pour raison familiale.
Et pourquoi vous supportez ces équipes en particulier ?
Je supporte cette équipe notamment pour son style de jeu basé sur la possession. Et aussi le fait de voir une équipe soudée avec des joueurs talentueux comme Messi, Neymar, Iniesta à l'époque. Et c'est pour ça que j'ai commencé à supporter cette équipe. Et je supporte également cette équipe car à l'époque, je suis devenu fan de Messi. Et je pense que c'est un élément déclencheur de cet amour pour cette équipe.
Alors, pour parler Amiens, en fait, ce qui m'a vraiment motivé à les supporter, c'était donc déjà parce que c'était l'équipe locale et que les joueurs étaient assez proches des gens. Je veux dire, on pouvait aller au bord de terrain, voir les entraînements, faire des photos avec eux, avoir des dédicaces. Enfin, c'était assez facile. Et puis, ils ont surpris tout le monde lors de leur montée en Ligue 1. Je me souviens que j'étais dans un bar à Amiens à ce moment-là, regarder le match. C'était Reims-Amiens, exactement. Et ils ont marqué un but à la 93e ou 94e minute. Ils étaient 6e de Ligue 2. Et ce but-là alors, les a fait monter directement en Ligue 1. Puis ils sont arrivés 2e. Et je me souviens les réactions dans le bar. Et même moi, qui commençais à suivre un petit peu Amiens cette saison-là de Ligue 2, j'étais folle. Et donc, c'est depuis ce moment-là où ça m'a fait vraiment rêver que je me suis mise à les supporter et à aller au match beaucoup plus souvent. Et puis forcément, quand ils étaient en Ligue 1, bah, on avait des belles affiches. On avait le PSG qui venait, l'OM. Enfin bref, c'était super bien d'aller les voir et donc puis après bah voilà, ça c'est resté comme ça puisque bah aujourd'hui maintenant ça fait plusieurs années qu'on les supporte, on connaît les joueurs, donc c'est vrai que on a cet attachement à cette équipe qui est agréable.
Est-ce que vous avez un petit rituel d'avant-match?
Alors oui, j'ai deux petits rituels. Il y en a un où j'analyse les confrontations entre les deux équipes et j'essaie de me rassurer que Barcelone va gagner. Et le deuxième rituel, c'est 2-3 minutes avant le coup d'envoi, j'aime bien me poser tranquillement chez moi, regarder l'entrée des joueurs avec l'hymne du Barcelone et le chant des supporters.
Alors, pour Amiens, oui. Je vais constamment voir un entraînement avant le match. Souvent, c'est le vendredi ou le jeudi, ça dépend. Et si je peux, j'essaye d'assister à la conférence de presse de l'avant-match, mais ça, c'est grâce à mon alternance que je peux le faire. Donc, évidemment, c'est le petit rituel. Et donc, ça, c'est pour aller au stade. Mais sinon, si c'est chez moi, bah ouais, je m'installe avec une petite bière ou un truc comme ça devant le match, que ce soit pour le PSG ou pour Amiens. Puis, bah voilà, c'est 2 heures de détente.
Et est-ce que les résultats jouent sur votre humeur dans la vie de tous les jours ?
Totalement, de 2015 jusqu'à aujourd'hui, quand Barcelone perd, je ne cache pas que je vais me sentir mal et je vais devoir attendre le lendemain pour que ça passe.
Alors oui, énormément, surtout pour Amiens, parce que bon, le PSG, sans vouloir les saucer, on va dire que voilà, les résultats sont souvent concluants, en tout cas en Ligue 1. Mais Amiens, oui, parce que c'est une équipe qui nous a vraiment, enfin qui m'a vraiment fait rêver durant toute leur saison en Ligue 1. Je me souviens par exemple d'un match où j'ai été, c'était le 15 février 2020 exactement. C'était Amiens-PSG et on a mis 4 buts au PSG. Le PSG a mis 4 buts à Amiens. C'était un match de folie quand t'es supporter des deux. Mais du coup, là, maintenant, oui, quand on voit des saisons passables comme l'année dernière ou encore cette année où on stagne en milieu de tableau de Ligue 2, qu'on voit qu'on perd, qu'on fait des matchs, 7 matchs sans victoire ou en tout cas sans mettre de but, c'est vrai que c'est rageant, sachant qu'on a des très bons éléments et qu'on a des super joueurs comme Andy Carroll qui est venu cet été. Je veux dire, on est quand même un club assez bon et les résultats ne sont pas toujours là. Et le problème, c'est que oui, ça démotive parce qu'à force, quand tu vas au stade, tu vois que c'est des matchs nuls, tu vois que l'équipe, elle n'est pas soudée, qu'il n'y a pas de... Il n'y a rien, donc oui, ça peut influencer l'humeur et te mettre de mauvaise humeur.
Merci beaucoup à Axel et à Tristan d'avoir bien voulu répondre à mes questions. J'ai également pu rencontrer le chef d'un groupe d'ultra qui a souhaité rester anonyme. Bonjour, merci de prendre le temps de discuter avec moi. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a conduit à devenir chef ultra et à t'impliquer de manière aussi intense dans le supporterisme ?
Salut, écoute, le football c'est plus qu'un simple sport. Pour moi, c'est une passion, une partie intégrante de ma vie. J'ai grandi en étant bercé par les chants dans les tribunes, par l'atmosphère électrique des stades. C'était naturel pour moi de m'impliquer davantage, de devenir acteur plutôt que simple spectateur. L'idée de soutenir mon équipe de manière intense, passionnée, c'était comme une évidence.
Tu es souvent désigné comme le chef ultra de ton groupe. Qu'est-ce que cela implique exactement et quel rôle joues-tu au sein de la communauté des supporters ?
Eh bien... Être le chef ultra signifie être à la tête de ce mouvement, être le porte-parole, mais aussi de canaliser l'énergie du groupe. Je suis celui qui coordonne les actions, les chants, les animations dans les tribunes. Mais c'est aussi un rôle de médiateur, un peu. Un lien entre le groupe et parfois même avec les autorités du club. Nous, les ultras, sommes une sorte de famille, vous voyez. Et en tant que chef, je veille à ce que cette famille reste unie et cohérente.
Les ultras sont souvent associés à une image de passion débordante, parfois même de comportement violent. Comment réagissez-vous à cette perception et quel est votre point de vue, ton point de vue sur la violence dans le supporterisme ?
C'est vrai, on a souvent mauvaise réputation, parfois à juste titre. Mais il est important de comprendre que la passion peut parfois déborder. Surtout lorsqu'on vit intensément chaque moment du match. La violence, cependant, c'est pas du tout notre objectif. Nous, on est là pour soutenir notre équipe, pas pour semer le chaos. C'est pourquoi, en tant que chef, je m'efforce de canaliser cette énergie de manière positive. Bien sûr, il y a toujours des brebis galeuses, mais ça représente pas l'ensemble du mouvement.
Comment perçois-tu le rôle des ultras dans l'évolution du football moderne, marqué par la professionnalisation, la commercialisation et la mondialisation du sport ?
Le football a changé, c'est indéniable. On est passé d'un sport de quartier à une industrie mondiale. Les ultras, dans ce contexte, y jouent un rôle crucial pour maintenir l'essence même du football. Le football dit classique, historique. On est un peu... J'aime bien l'expression... des gardiens de la passion, de l'authenticité. Avec la commercialisation, le lien entre les joueurs et les supporters s'est affaibli. Et c'est là que nous intervenons. On est le lien direct le cœur battant derrière l'équipe. C'est un équilibre délicat entre tradition et évolution. Mais je pense que les ultras sont nécessaires pour que le football conserve son âme.
Pour finir, que dirais-tu à ceux qui voient les ultras d'un mauvais œil et qui pensent que vous contribuez à des comportements indésirables dans le monde du football ?
Je dirais simplement de ne pas généraliser. Oui, il peut y avoir des excès, comme partout, mais la majorité des ultras sont là par amour du jeu. On est des passionnés, on est engagés, et on veut simplement donner à notre équipe l'énergie dont elle a besoin. Au-delà des préjugés, venez dans notre tribune, ressentez cette atmosphère, comprenez ce que signifie vraiment être un ultra. On est bien plus que ce que les gens voient à la télévision. On est le pouls du football, notre passion, c'est notre plus grand atout.
Grâce à ces entretiens avec des supporters, nous avons pu en apprendre davantage sur leur manière de vivre leur passion. Dans le prochain et dernier épisode de Au cœur du COP, nous conclurons cette série de podcasts en faisant le bilan de notre enquête et en cherchant d'autres pistes. Merci de votre écoute. À la prochaine.